On va reprendre nos travaux, si vous voulez bien, pour ne pas prendre trop de retard. Si les dernières personnes qui sont debout, au fond de la salle, veulent bien prendre place. On va donc reprendre avec cette session plénière avant les ateliers qui commenceront à 15h. Donc, on l'a dit ce matin, on l'a souligné, l'inscription des droits culturels dans la loi française est relativement récente. Mais il est un pays un peu plus au nord où cette histoire est plus ancienne. Et ce pays, c'est la Belgique, puisque c'est en 2009 qu'a été publié un décret relatif au développement des pratiques de lecture organisées par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques. Ça ne s'invente pas. Dans ce décret, il est question d'un vrai changement de paradigme. C'est un des mots de la journée. Donc, passer d'un paradigme centré sur l'offre, sur le prêt, dans une perspective de démocratisation culturelle, à un paradigme centré sur la demande et notamment sur les capacités langagières des personnes. Ce changement, on l'imagine bien, ne s'est pas fait sans poser de questions. Peut-on décréter la participation, le partenariat, l'évaluation comme mode de réajustement de l'action pour et par les populations et les professionnels ? Comment les droits culturels ont-ils impacté les personnes ainsi que les pratiques professionnelles des bibliothécaires et de leurs partenaires? Pour nous conter cette histoire et tenter une réponse à ces différentes questions, nous accueillons donc Céline Martin, qui est coordinatrice du service démocratie et culture du Centre d'action laïque de la province de Liège, qui est une association d'éducation populaire chez nous et d'éducation permanente chez vous, c'est cela. Qui est également formatrice, coach d'équipe et présidente de la commission de l'action culturelle territoriale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pas que chez nous qu'on a des titres à rallonge. Et vous allez nous expliquer un peu de quoi il s'agit pour nous qui ne sommes pas familiers du contexte et des institutions belges. Ce qu'il est important de souligner dans cette introduction, c'est que vous avez accompagné tout ce mouvement, toute cette évolution depuis l'origine, formé aussi de nombreux collègues à cette façon nouvelle, peut-être, d'exercer leur métier. Et donc, nous avons la grande chance que vous ayez accepté de porter un regard rétrospectif sur cette évolution, de l'analyser sur le temps long, dans toutes ses dimensions, voilà, pour nous qui sommes plutôt au début de cette aventure. Je vous laisse la parole.
Merci Clotilde. Ben, moi, j'ai la grande chance d'avoir été invitée parmi vous. Alors, bon, ben, pour répondre à la question qui m'est posée, qui nous est posée cet après-midi, comment s'approprier les droits culturels? Je pense qu'on l'a vu, il y a différentes entrées possibles, philosophiques, sociologiques, mais aussi d'expériences concrètes de terrain. Bien finalement, ce que je vais essayer de faire avec vous dans un temps assez court, assez record, ben c'est un peu toutes ces entrées-là à la fois. Toutes ces entrées-là à la fois qui sont aussi liées à mon parcours et qui sont liées au parcours en Belgique de cette affaire des droits culturels en bibliothèque. Donc, je vais balayer avec vous. D'abord, je vais un peu me présenter qui je suis. Comme ça, vous saurez d'où je parle. D'où je parle, c'est de Belgique. Et le contexte institutionnel n'est pas simple. Je vais essayer de vous introduire quand même à ce contexte institutionnel. Et puisqu'il est question quand même de droit culturel, c'est donc qu'il n'est pas question que de philosophie ou de méthode, mais aussi de loi. Donc, je ferai un point sur en Belgique, comment l'histoire, finalement, les contours historiques sur un niveau légistique, mais qui est, vous allez le voir, inextricablement lié à des questions de méthode, à des questions de pratique, à des questions de métier concrètes de terrain. Donc je terminerai par ça. en m'appuyant sur une des expériences que j'ai eu le plaisir de mener de 2004 à 2015 qui s'appelle Au Livre Citoyen. Voilà, ben donc c'est une façon pour moi de me présenter. Donc je suis quelqu'un qui vient de l'éducation populaire. J'ai travaillé en partenariat avec une bibliothèque départementale. À l'époque, en Belgique, on disait bibliothèque centrale. À partir de 2004, en Belgique, il y a eu un vote d'extrême droite assez puissant. Or, dans la partie francophone du pays, il n'y a absolument aucune formation politique digne de ce nom. L'extrême droite n'est absolument pas organisée. Donc, pour beaucoup, au niveau de la société civile, ça a vraiment été un choc et un peu un warning. Dans ce cadre-là, l'éducation populaire, l'association dans laquelle je travaille, s'est mobilisée, comme à l'époque énormément d'autres, sur la question de savoir bien que faire. Alors, un peu tout naturellement, je me suis tournée vers un lieu, une institution qui, pour moi, était familière déjà à l'époque, la bibliothèque. Pourquoi ? Parce qu'il y a, sur cette question d'extrême droite, un inconscient collectif sur la question des autodafés qui restent, on brûle les livres. Et donc, intuitivement, comme ça, je me dis, probablement, les bibliothèques ont quelque chose à dire sur cette question. Et donc, j'ai pu, tout à fait sur le terrain et sur le travail à l'époque qui m'était missionné par mon employeur. On disait tout à l'heure, parfois on a un projet et on cherche des sous, parfois on a des sous et on a un projet. On va dire que c'était un mixte des deux vers la bibliothèque centrale, la bibliothèque départementale et les bibliothèques locales. De là est né ce dispositif au livre citoyen. À partir de là, l'expérience de terrain que j'ai eue a fait que j'ai représenté l'éducation populaire au Conseil supérieur des bibliothèques. Donc en Belgique, il y a des instances d'avis pour tous les secteurs culturels qui sont organisées avec en même temps des représentants du secteur, mais, et c'est vraiment important pour la suite, également des représentants d'autres secteurs. Donc l'éducation populaire, au même titre que les centres culturels, au même titre que les pratiques artistiques, professionnelles et amateurs, siègent dans ce conseil. Alors maintenant, eh bien, l'acronyme, nous on dit CACT, donc le Conseil de l'Action Culturelle Territoriale. Il se fait que nous avons vécu une refonte administrative dans le cadre d'une nouvelle loi qui voulait plus de transversalité. Et donc me voici de la présidence du Conseil supérieur des bibliothèques, présidente d'une instance d'avis qui regroupe les bibliothèques, qui regroupe les centres culturels et qui regroupe les pratiques artistiques en amateur, les pratiques artistiques d'art plastique et les pratiques artistiques de théâtre. Soit. On va rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet. Donc, je vais d'abord rentrer par l'histoire de la législation en Belgique concernant les bibliothèques. Je vais y aller au pas de course, mais on peut peut-être éventuellement délabirater davantage par des questions ensuite. Et puis, les pratiques de terrain. Alors, les droits culturels en Belgique dans les bibliothèques ont une double inscription. Une première dans les lois, je vous disais, la première en Belgique, c'est en 1921. Nous sommes dans l'immédiate après-guerre. L'effort de guerre, le censitaire fait place au droit de vote pour tous. Et donc, on a un premier parti clairement progressiste qui s'appelle le Parti ouvrier belge, qui sera l'ancêtre du Parti socialiste en Belgique, et un ministre très progressiste, assez éclairé, Jules Destrée. Donc la loi Destrée qui, en 1921, va organiser l'école fondamentale, donc l'école primaire, publique, gratuite et obligatoire, et tout de suite avec la loi des bibliothèques. Alors déjà là, finalement, ça n'en portait pas le nom, mais je pense qu'on peut sentir des prémices des droits culturels, puisque le ministre Destrée nous écrit en motivation de sa loi: l'école doit se compléter par la bibliothèque publique. L'État demandera aux bibliothèques si elles sont installées dans un local accessible à tous, si elles sont vraiment publiques et gratuites. Et plus loin, elles seront choisies d'après, les collections seront choisies d'après les demandes des assidus de la bibliothèque et non d'après le vœu de l'administration centrale du ministère. Je laisse trois petits points. Nous avons ensuite la loi de 1978. Alors la loi de 1978, là il y avait une position de principe assez généreuse. L'État y est allé de ses deniers publics, mais il y avait relativement d'énormes disparités sur le territoire. Il n'était pas du tout irrigué de façon égalitaire. Alors la loi de 78 est une loi qui va extrêmement professionnaliser le secteur. C'est à partir de là qu'on va vraiment donc renforcer le côté réseau des bibliothèques, avec les bibliothèques départementales, le pré-inter, etc. C'est là aussi qu'on va avoir les formations qualifiantes des bibliothécaires. Et là, on va avoir un texte de loi qui va être extrêmement centré sur l'offre, c'est-à-dire le nombre d'acquisitions, le nombre de mètres carrés, le nombre d'emprunteurs, etc. Donc, on est sur quelque chose qui est fort centré sur l'offre. Alors, cette offre, concrètement, pour que vous imaginiez un peu, et là, je vais tracer sur les logiques institutionnelles, mais donc, c'est quoi ? Alors, en Belgique, il y a 3 communautés qui ont chacune, pour des raisons historiques diverses et variées, une façon spécifique d'organiser leur réseau de la lecture publique. Juste comme ça, à titre indicatif, la communauté flamande est autour d'un budget de 9,5 millions. La communauté francophone est autour d'un budget de 3,5 millions. Je fais un focus sur de là où moi je vais vous raconter la suite. Dans quoi est-ce qu'on est ? On est dans 140 réseaux locaux avec 600 implantations. Pour avoir un ordre d'idée, la population francophone qui est desservie est autour de 4,4 millions. Il y a plus de 900 emprunteurs, donc ça veut dire que le pourcentage d'affiliés approche les 20%. Par rapport aux autres secteurs subsidiés par la Fédération et l'Uni-Bruxelles, c'est un jackpot, hein. Je veux dire, l'opéra ne fait pas ça, mais même les centres culturels non plus n'ont pas ce taux de pénétration. Alors, en déant les 10 dernières années, il y a vraiment eu un boost, c'est-à-dire qu'on a eu une augmentation de 10% de prêts. Eh bien, l'évaluation montre quoi ? Que finalement, ce boost, on le doit à l'intégration des droits culturels. Et si ? Donc, pour en arriver là, on fait un petit rétroacte, on quitte un tout petit moment le panorama légistique, on a un temps fort, et ça a toute son importance. Un temps fort en 2006, c'est-à-dire qu'il y a, un peu comme aujourd'hui, une grande journée du secteur. Les bibliothécaires se rassemblent et font un état des lieux du réseau et tracent ensemble des perspectives. Et c'est là qu'est né le chantier de modification de la loi. Donc, avec au centre et au cœur du dispositif, les bibliothécaires. Ensuite, donc, sur l'impulsion, toujours à l'époque d'une ministre socialiste, Fadila Lanan, elle va travailler ce chantier d'élaboration de décrets de 2006 à 2009 en faisant extrêmement fort travailler son instance d'avis. Donc avec, à l'intérieur de cette instance d'avis, d'emblée, des points de vue pluridisciplinaires, intersectoriels et donc des partenaires des bibliothèques, comme l'alphabétisation, l'éducation populaire, les centres culturels qui parfois ne se reconnaissent pas exactement comme tels, hein, et dans la pratique non plus. Mais c'est quelque chose qui a été élaboré vraiment ensemble. Arrive donc en 2009, et les mots ont leur importance, le décret sur le développement des pratiques de lecture. Donc on n'est pas dans un décret sur un développement du réseau de lecture, mais on est bien sur un décret qui va donc passer d'un décret de l'offre à un décret axé sur la demande. Alors, ce décret, j'ai plein de choses à vous dire très intéressantes, mais je n'ai pas le temps sur la question de l'objet du décret, où je faisais un parallèle avec la question des droits culturels et des oui-droits, comme on vient de voir. En gros, vous dire, je passe directement au droit culturel de Fribourg. Dans ce décret, on a le droit d'accéder au patrimoine culturel, à l'information, à l'éducation, à la formation. Mais alors, de façon très, très forte, le droit de participer à la vie culturelle, parce que, bon, allez, quand même, ça, je vous le lis, dans son objet, l'article 1, dans le paragraphe 4. Donc, la démarche des opérateurs du service de la lecture public visé dans le décret s'inscrit dans une démarche d'éducation permanente, c'est notre façon à nous de dire éducation populaire, hein, et d'émancipation culturelle et sociale à laquelle toute personne doit pouvoir prétendre individuellement, Meyerbeer, je dirais personnellement et collectivement sur du commun. Donc ça veut dire qu'on a un décret qui est vraiment centré sur la question des populations et dont l'enjeu, l'objet, la mission phare, c'est vraiment le développement de l'institution, pas de l'institution, pardon, mais des capacités langagières des populations. Donc, de ce décret où on avait en 78 centré, et c'est fondamental, hein, c'est vraiment très très important, et je pense que maintenant que ça a été fait, on a pu ouvrir sur d'autres choses. Un décret de bibliothèque d'institution de prêt où on a vraiment professionnalisé le secteur, etc., à un décret de bibliothèque projet. Alors, fondamentalement, la question du projet, vous dites projet d'établissement, vous l'avez aussi. Maintenant, les bibliothèques chez nous, le projet, même ce qu'elles doivent déposer pour être reconnues et être subsidiées, c'est un plan de développement de la lecture, donc des lecteurs, donc des personnes. Alors, tout à l'heure, on a eu une intervention où j'ai noté ton nom, j'ai oublié, de Sabine. Pardon, merci. Voilà. Qui, sur une logique de projet un peu innovante en tant que bibliothèque départementale, etc., c'était sur des questions de diagnostic partagé, où elle croisait, etc. Mais il faut savoir que le formulaire qui est à remplir pour les bibliothèques pour être reconnu chez nous, c'est un outil de gestion de projet stratégique. Et en gros, je pense que je me réjouis d'aller voir, mais on est sur des logiques qui sont extrêmement communes. Donc, on n'a vraiment plus un cadre légal qui est sur la question du nombre d'acquisitions, du nombre d'ouvrages, de ce qui doit tourner, etc. Il y a eu des levées de boucliers, des craintes monstrueuses dans le secteur en disant « Mais si on n'oblige pas les collectivités locales, ça veut dire qu'au niveau des budgets, ils vont diminuer la question de l'acquisition, etc. » Et ce qu'on voit comme chantier d'évaluation du décret, 10 ans plus tard, c'est qu'on est à plus 10%, quoi. En fait, ça, le fait de travailler sur des optiques stratégiques et en changeant de paradigme, sur ce qui fait le core business du métier, la question du livre, hein, au livre citoyen, il y a quand même le livre, ben, c'est pas magique, hein, il y a des tas d'étapes. Mais donc, on arrive à quelque chose in fine, 10 ans plus tard, où, en fait, ça booste la question. Alors, donc, en gros, je vais bientôt arriver sur la question du terrain. Je suis déjà en train d'un peu la toucher. Les réactions à ce moment-là aux exigences du nouveau décret, en disant, OK, ben, c'est un décret qui, finalement, est un décret de liberté, qui permet à chacun mettre à bord d'avoir son projet bibliothéconomique centré sur le développement de ses lecteurs spécifiques. On ne travaille pas le projet bibliothèque de la même manière dans une grande ville comme Lyon ou dans un petit village semi-rural. C'est pas la même chose. Et en fait, en termes d'exigence, pour pouvoir avoir de l'argent et pour pouvoir avoir des livres et puis du temps de travail, etc., ce qu'on vous demande essentiellement de faire, c'est d'avoir un diagnostic, de mettre en partager avec les populations, surtout avec les partenaires. Donc, vous n'êtes pas tout seul à devoir tout pédaler. Au début, là, de nouveau, on se dit, mais c'est hyper chronophage, quoi. Comment est-ce que moi, je vais faire déjà comme ça? On a le nez dans le guidon. C'est super compliqué. On a beaucoup d'heures de travail à prester. Mais c'est vraiment un outil légal qui permet d'avoir du temps long et d'avoir du temps long d'élaboration de son projet, d'avoir du temps long de réalisation de son projet et d'évaluation. Ça, c'est la partie que moi, j'adore. Mais parce que vous allez voir, elle ne sonne pas comme quand on était petit à l'école. C'est bien d'évaluation dont il est question en termes de réajustement de l'action. Voilà, je dois tracer, donc du coup, peut-être que je m'égare sur le terrain. Alors, on a parlé tout à l'heure de révolution. Mais donc, OK, c'est bien une législation qui a été convoquée par le secteur, par les bibliothécaires eux-mêmes. C'est rude, hein, quand même. Ça n'a pas été tout facile et tout simple. Il y a eu, à juste titre, beaucoup de craintes et d'anxiété. Mais alors, là, il s'est passé quelque chose de vraiment intéressant. Au début, on trouvait que c'était la catastrophe. Donc, on est en 2009. Et il y a eu des lobbies politiques et des tensions extrêmement fortes. Du coup, ce super truc qui était concerté par tout le monde, dont on se réjouissait qu'il arrive à être appliqué, blocage du ministre du Budget pendant plus de 2 ans et demi. Donc, en fait, on était dans un moment où même le secteur, il se disait, mais quoi, on a changé la règle du jeu, est-ce qu'on anticipe ou pas? Parce que le blocage, on ne savait pas à partir de quand il allait être levé. Et en fait, ces années-là, eh bien, on a utilisé, vraiment l'administration a utilisé, le service de la lecture publique au ministère sur plein de dispositifs d'accompagnement. Donc, il y a eu des projets, des appels à projets ou sur base volontaire et sur une ou deux dimensions qu'on avait envie d'aller un peu creuser, qu'on avait envie d'un peu déplier. Il y avait des mannes d'argent qui permettaient d'avoir un accompagnateur. Alors, de nouveau, au début, c'était un peu, mais enfin, c'est de logique de contrôle, etc. Il faut que... Mais très, très vite, ça s'est complètement détendu parce que ces logiques d'accompagnement-là étaient faites aussi par les pairs et puis par d'autres, de complètement d'autres secteurs et donc qui... Une fois la question de la légitimité passée, ben, n'avait pas trop d'enjeux par rapport au vous, par rapport aux bibliothécaires. Et donc, il y avait vraiment quelque chose qui se structurait, qui a fait, par exemple, que, oups, par la base et avec les bibliothécaires, on a fini par se faire un outil spécifique, outil bibliothèque, qui nous permettait, à l'issue de l'ensemble de ce travail, de se faire un vade-mecum, mais vraiment par la base, par le terrain, pour pouvoir arriver à ces fameuses nouvelles normes. Et donc, comment fait-on un plan de développement de la lecture avec vraiment des choses tout à fait pratiques, tout à fait concrètes, avec des exemples qui permettaient de se dire, oh là là, non, ça va, c'est pas si difficile que ça de rentrer dans la nouvelle législation. Bon, je trace. Deuxième dispositif très fort dans cette loi, c'est la question de l'évaluation, je vous le disais, et notamment l'évaluation du décret par le décret. Donc, ça veut dire que, après 5 ans d'application, le service public de la lecture, au niveau du ministère, était obligé de faire une évaluation par lui-même, de lui-même, et en concertation avec l'ensemble des opérateurs. Donc, 2 grands chantiers d'évaluation, un premier en 2016 et un second en 2020. En traçant un peu, 2016, on s'est rendu compte après 5 ans que, comme Madame l'a dit, j'ai un problème avec le prénom, Hélène, non, hein. Comme Sabine, voilà, disait, sur la question de la pratique, mais finalement, une fois qu'on se lance dans ce type d'outils stratégiques, assez rapidement, en fait, toutes les équipes et à tous les différents niveaux se sont appropriées la chose. Une fois qu'on passe le côté un peu, donc je pense que tout le monde connaît bien Franck Lepage dans la salle, et quand il fait son show là, avec les petits cartons et qu'il vous met plein de mots, ben, à un moment donné, c'est devenu quelque chose de très concret, de très pratique. Et donc, il y a très, très rapidement une grande appropriation de la question. Donc, voilà, avec de temps en temps des petits flous. Nous, à l'époque, on butait sur la question de la médiation culturelle. Voilà, on faisait une fois au colloque, où on disait, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les bibliothèques ne le font pas déjà sans le savoir? Enfin, voilà. Mais sorti de là, donc, voilà ce que l'évaluation a montré. Et en 2020, ce que l'évaluation a renvoyé sur l'ensemble des bibliothèques, etc., c'est qu'il y avait vraiment 2 moteurs très, très importants, la question du partenariat et la question de l'évaluation. 2 moteurs, 2 piliers qui permettaient vraiment de travailler la question des droits culturels en bibliothèque pour l'ensemble, que ce soit les petites bibliothèques de quartier ou les grandes bibliothèques, les bibliothèques départementales, les itinérantes, les spéciales, etc., ces 2 questions. Alors, pour ouvrir ces 2 questions... Là, je vais démarrer par un petit film de quelques minutes sur le dispositif dont je vous parlais. Au livre citoyen.
Au livre citoyen présente. Et demain. Depuis quelques années, des citoyennes et des citoyens des quartiers de différentes communes de la province de Liège participent au projet Au Livre Citoyen. Au Livre Citoyen est réalisé par 2 associations d'éducation permanente, le Centre d'action laïque de la province de Liège et les Territoires de la Mémoire, par une bibliothèque la bibliothèque centrale de la province de Liège, et par un centre dramatique pluridisciplinaire Arsenic 2, en partenariat avec plus de 50 partenaires locaux. Des centres culturels, des bibliothèques locales, des CPAS, des régies de quartier, des associations d'alphabétisation, des artistes plasticiens, des artistes des arts de la scène,
mon Dieu, on ne sait même plus ce qu'on peut manger,
des écoles primaires, secondaires, supérieures. Ce projet s'appuie sur la participation des citoyens. Lors des précédentes éditions, une question est née. Et demain ? Ainsi, les citoyens des quartiers racontent, interrogent, débattent. Ils disent, dans cette période de transition, l'inégale répartition des ressources, les réfugiés morts, Donald Trump, Monsanto. Ils disent l'inquiétude, le sentiment d'être peu de chose, dépassé parfois. Ils disent aussi les espoirs, l'enthousiasme, les alternatives, les petites et grandes choses. Des actions concrètes locales aux politiques globales, ils disent l'accès de chacun aux droits fondamentaux. Dans les quartiers de Liège, d'Anse, de Warem, d'Oupey, pour bien vivre ensemble, les citoyens expérimentent des pistes. Des pistes pour faciliter l'accès à un environnement de qualité. Des pistes pour faciliter l'accès à une libre circulation des personnes.
Il est le temps d'agir, de nous souvenir.
Des pistes pour faciliter l'accès à la culture. Des pistes pour faciliter l'accès à une alimentation saine. Pas de recette miracle, mais une conviction partagée. C'est par la solidarité, la coopération, qu'ensemble, nous pouvons nous remettre en capacité d'agir sur notre devenir. Pour que demain soit une société juste, solidaire, égalitaire.
Ils vont grimper, on va mettre de la corde tout autour. Et les petits pois, ils vont grimper jusque tout en haut.
Il nous suffit de nous rassembler et d'agir ensemble.
Et vous ? Pour bien vivre ensemble demain dans votre quartier, qu'est-ce que vous faites déjà ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire ?
Il y a des techniciens hors pair, mais moi j'ai encore besoin de formation. Mais ça va, Clotilde est avec moi.
Voilà, ben donc je pense que ceci n'aurait pas été possible sans la modification de loi de 2009. On est bien à l'initiative avec non seulement la bibliothèque départementale et une vingtaine de bibliothèques locales, mais surtout à l'initiative. Il ne s'agit pas d'un projet top-down, mais de quelque chose qui, dans le temps long d'un dispositif qui a plusieurs années et donc des relations, soit de confiance interpersonnelle, mais surtout interinstitutionnelle, se tisse. Et se tisse avec d'emblée différentes dimensions, c'est-à-dire qu'on va aller convoquer et chercher les arts de la scène, qui pour certains, en tout cas, tous ne sont pas dans ces enjeux-là, mais ont besoin de pouvoir nourrir leur création et leur diffusion avec un contact avec la population. D'emblée, on est avec l'éducation populaire, d'emblée, on est avec des opérateurs de réinsertion socioprofessionnelle. Hein, on voit bien, on fait tout ça un peu partout la même chose en Europe pour le moment, hein, on a des repair cafés, là, on voit les gens qui sont en train de réparer des choses, etc., etc. On a des grénothèques, des plantothèques. Je suis certaine que dans vos bibliothèques aussi, il y a ce type de projet. Mais donc, ce maillage, ce réseautage, donc la question du partenariat. Et quand on regarde la question de l'accès à la culture, Forcément, il y a énormément de personnes. On disait tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on fait pour les non-publics? Comment est-ce qu'on fait, en tout cas, pour ceux qui sont éloignés? Comment est-ce qu'on fait pour que certains osent pousser la porte? En fait, là, ce qui se passe, c'est que la bibliothèque vient à eux. Mais pas en se disant, on va demander à un bibliothécaire qu'il aille faire du porte-à-porte et qu'il sonne aux portes en disant « Bonjour, est-ce que vous vous sentez une volonté personnelle et commune de développer vos droits culturels aujourd'hui ?» Ce n'est pas du tout ça, évidemment. Mais il y a des personnes qui sont dans les quartiers. Et alors, on disait tout à l'heure le fantasme, la pure ascendant, etc. Il faut se calmer. Enfin, je veux dire, il y a quand même peu de gens. Il y en a. Il y a un monsieur là qui est SDF à la porte ici, de la bibliothèque. J'imagine que vous l'avez vu comme en rentrant. Et probablement, lui, ne doit pas avoir énormément d'insertion dans des assos, dans des services publics, etc. Mais grosso modo, vous pouvez être à peu près certain que sur le territoire dans lequel vous êtes, là, tout près de chez vous, il y a le centre d'action sociale, enfin, n'importe. Mais il y a des associations, il y a des services publics avec lesquels on peut discuter, on peut aller travailler pour réussir à être vraiment dans une optique participative, pas uniquement de démocratisation de l'accès d'une bibliothèque, mais avec en plus des pratiques réellement de démocratie culturelle et sans que les équipes et que les personnes s'essoufflent en se disant « mais moi, ce n'est pas mon métier, quoi. C'est pas possible. Moi, je suis formée à la CDU. Moi, ce que j'aime, c'est de faire une fiche. Quoi. Ce que j'aime, c'est... Non, mais c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. C'est un travail de première nécessité. Je ne dis pas que tout le monde est là-dedans, mais il y a ça aussi. Mais la question du partenariat a vraiment été puissante par rapport à ce qui s'est passé au niveau des droits culturels en Belgique. Alors, la question du partenariat, vous voyez bien, j'y crois très fort, ça m'emballe. Maintenant, soyons clairs, ça pose des tas de questions au niveau de l'élaboration, de la réalisation, et aussi et surtout, et j'en terminerai par là, je tiens presque le timing, j'ai un dernier petit documentaire sur la question qui me réjouit, la question de l'évaluation.
Bonjour, vous êtes devant votre ordinateur, votre iPhone, un écran? Et vous êtes peut-être en train de vous demander, un dessin animé? Est-ce qu'un dessin animé peut m'apprendre quelque chose? Est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce qu'il va m'amuser? Me faire sourire? Rire peut-être? C'est que, probablement, sujet pensant que vous êtes déjà en train d'évaluer. Évaluer. Le mot est lâché. Ah, cette contrainte administrative dont tous les travailleurs de tous les secteurs raffolent. L'évaluation, elle prend du temps, trop de temps. L'évaluation, elle est anxiogène. Je ne vais pas dire devant mes collègues, devant ma hiérarchie, que mon action n'a pas atteint ses objectifs. Le rapport d'évaluation, je dois l'envoyer à l'administration, à des fonctionnaires loin du terrain et qui, peut-être, n'ont pas le temps de tout lire. En fait, l'évaluation, elle est de plus en plus présente. Et on sent bien qu'il y a un enjeu, un rapport à la conjoncture économique défavorable. Une mauvaise évaluation risque-t-elle de me coûter des subventions? Et si l'évaluation qu'on va faire ensemble, elle avait un autre enjeu? L'enjeu de reconnaître que chacun de nous a la capacité de contribuer aux décisions qui le concernent. C'est le pari qui a été relevé à Warem. À l'origine, un projet appelé « Au livre citoyen ». Ce projet rassemble la bibliothèque centrale, la bibliothèque locale, le centre culturel, le service d'insertion sociale du CPAS, la régie de quartier et deux associations d'éducation populaire. On dit permanente en Belgique. Les territoires de la mémoire et le centre d'action laïque de la province de Liège. Ce projet pose une question qui nous concerne tous. Pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes, pour travailler cette question, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, ensemble, ils débattent, font des ateliers, des visites d'expos, des écritures de chansons, ils chantent, etc. Et ils évaluent. Ils évaluent, mais quoi? Pour l'éducation permanente, il faut évaluer si les actions ont permis l'exercice de la citoyenneté active et participative dans une perspective d'émancipation. Pour la lecture publique, si les actions ont permis de favoriser le développement des capacités langagières. Pour le centre culturel, si les actions ont permis un développement culturel du territoire dans la perspective des droits culturels pour tous. pour la régie de quartier, si les actions ont favorisé l'amélioration du cadre de vie, la convivialité et l'exercice de la citoyenneté. Et pour le service d'insertion sociale du CPAS, si les actions ont contribué à placer l'individu dans une structure de vie épanouie et digne, lui permettant d'exercer les droits de l'article 23 de la Constitution. Ouf ! Bon, il traduit ce tas d'enjeux par un objet d'évaluation qui se décline en trois niveaux. Premièrement, apprendre-découvrir. Deuxièmement, échanger-partager. Et troisièmement, participer. Ok, on y voit plus clair ? Encore que... Comment aller chercher ces informations ? Un questionnaire ? Des interviews ? Formelles ? Non formelles ? Comment ne pas perdre de temps en tant que travailleur et pour les participants ? On intègre l'évaluation à l'action. À partir des photos des activités, on se souvient, on regarde dans ses traces pour évaluer ensemble. On a découvert des nouveaux lieux, appris de nouvelles choses, rencontré de nouvelles personnes. On a donné notre avis, mais surtout, on en a tenu compte. D'ailleurs, pour la prochaine fois, il faut qu'on se revoie pour décider ensemble ce qu'on va faire et comment. Ainsi, avec tous ces regards sur ce qu'on a vécu ensemble dans le projet pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes, on trace l'avenir. Oui, mais comment ? Mais simple ! Des revues, des marqueurs, des grandes feuilles, et on fait des collages pour déterminer ensemble les contours du prochain projet. Quel enjeu de société, comment le travailler, avec quelle méthode, quelles ressources, quelle temporalité. Résultat, quelques mois plus tard, Warem explore. À Warem, les habitants et les travailleurs explorent des façons de vivre, dire, comprendre et contribuer à définir ensemble leur ville. Ils font des marches exploratoires, des cabinets de curiosité, des catchs littéraires et des photos. Alors, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'évaluation en partenariat, oui, ça marche. Mais est-ce que c'est facile? Restons calmes. De difficiles questions ont traversé ce travail et traversent encore les projets. Sortir l'évaluation du simple encodage administratif dans des cases préétablies n'est pas sans produire des faits. L'évaluation comme pratique de réajustement de l'action, l'évaluation comme pratique intégrée au projet qui permet la participation des publics, ce n'est pas une pratique neutre. Une fois cette aventure ouverte, il va falloir assumer la question de l'égalité. C'est-à-dire, va falloir se poser la question de savoir qui décide vraiment, qui a le pouvoir quoi. Le bénéficiaire du CPAS ? L'échevin ? Le lecteur de la bibliothèque ? L'animateur du centre culturel ? Ah oui ! La question de l'égalité, on la laissera ouverte. Et pour y travailler encore, on propose la lecture de l'ouvrage. Évaluer en partenariat une question d'égalité.
Voilà. Alors, qui a le pouvoir ? Qui a le pouvoir de contribuer aux décisions qui nous concernent ? La question des droits culturels. On parlait tout à l'heure avec un regard assez sociologique des rapports de domination. On parlait aussi tout à l'heure de concrètement comment on va chercher les publics éloignés, etc. Qui a quel pouvoir ? Alors, de l'expérience en Belgique, juste vous dire, le pouvoir, il est de plusieurs natures. Bien sûr, il est au niveau légistique. L'État a un pouvoir sur nos pratiques. La loi sur les bibliothèques a un pouvoir sur ce qu'on va mettre en place. Cette histoire-là, elle est émaillée de temps forts, je trouve, de grands moments de démocratie, comme cette histoire en 2006, où on a lancé un chantier de rénovation de la loi au départ des pratiques des professionnels. Elle est aussi émaillée par des temps politiques de grandes tensions, comme cette histoire de budget, mais qui a fait que finalement, on s'est retrouvé avec du temps pour nous, du temps d'accompagnement du secteur pour mettre en place de l'accompagnement, mettre en place des outils. Et puis finalement, cette histoire de droit culturel, c'est une affaire de pratique. C'est une affaire de pratique de vous, chacun, chacune bibliothécaire, de vos partenaires et aussi des usagers, des personnes, des populations. Enfin, on les appelle chacun comme on veut. Et fondamentalement, qui a le pouvoir ? La question du pouvoir, c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, une question liée au savoir. Alors, je conclurai par là en empruntant une citation d'un philosophe que j'aime beaucoup, un philosophe français, qui s'appelle Étienne Balibar, un philosophe spinoziste, et qui nous dit ceci. connaître réellement ses pensées de moins en moins seules. Si nous admettons avec Spinoza que la communication est structurée par des rapports d'ignorance et de savoir, de superstition, d'antagonisme idéologique, nous devons admettre avec lui que la connaissance est aussi une pratique et que la lutte pour la connaissance est une pratique politique. Nous comprenons en quoi la théorie du corps politique est la recherche d'une stratégie de libération collective dont le mot d'ordre s'énoncerait « être le plus nombreux possible à penser le plus possible ». Alors, je remercie les organisateurs de cette journée de nous inviter à être le plus nombreux possible, à penser le plus possible cette grande notion de démocratie culturelle. Je vous remercie.
Bonjour. Je me demandais en vous écoutant comment l'organisation territoriale de la culture en Belgique, notamment le maillage des centres culturels qu'on ne connaît pas ou pas de cette façon en France, les points culture, les projets transfrontaliers comme les maisons folies, si tout ça, ça n'avait pas favorisé en fait ces partenariats et aider en tout cas à développer ces notions de droit culturel.
Évidemment. Et la dernière modification en date là, qui a fait que du Conseil des bibliothèques, moi maintenant je travaille avec aussi les centres culturels, les pratiques artistiques en amateur, etc. Tout ça joue un rôle hyper important. Et donc la question du partenariat, elle s'invite structurellement dans le décret des bibliothèques via le Conseil des développements de la lecture en amont du processus, mais aussi pendant. Et on a, de la même manière, à l'intérieur de tout ce qui est logistique pour les centres culturels, donc vraiment là où les droits culturels depuis 2013 sont une exigence très forte sur la question du partenariat, donc du diagnostic partagé, etc. Donc il y a quelque chose de très cohérent, en fait, entre les politiques culturelles, leur organisation, l'administration, voilà. Et donc, il y a plein d'outils qui sortent comme... peut-être c'est ça à quoi vous faites référence, un petit bulletin qui s'appelle lecture.culture, qui est par les gens des secteurs, des centres culturels, des bibliothèques et maintenant des pratiques artistiques en amateur, ainsi que les points culture. Les points culture, c'est notre façon à nous d'avoir nommé les médiathèques. Enfin, les médiathèques vraiment qui... Parce qu'au départ, elles sont sorties, elles ne sont pas liées aux bibliothèques, qui prêtent, qui louent en fait tous les supports, son, image. Voilà. Donc oui, c'est évident. C'est une grande force et c'est pour ça que j'ai passé un peu de temps, j'espère de façon pas trop maladroite et un peu claire, pour bien expliquer que ce type de projet, s'inscrit et est porté par une législation qui est celle-là.